Et pour introduire brièvement cette seconde session de notre colloque traitant cette fois de l'œuvre et de la pensée de Manitou, et avant de passer la parole à nos trois intervenants, Laura Bourri-Cherki, Marcel Goldman, puis Laura Youssef Hatoun, je voudrais présenter quelques traits marquants de ce que j'appelle l'incroyable synthèse dans une voie tout à fait unique et sans précédent réalisée tout au long de sa vie et de son immense œuvre par le Rav Ashkenazi. Et pour ce faire, je voudrais brièvement poser 5 jalons complémentaires et convergents qui me semblent devoir être signalés dans ce processus qui a permis donc à Manitou d'accomplir son œuvre et de forger sa pensée et de répandre son enseignement. Alors, première direction, qui est la suivante, on peut dire qu'en se construisant lui-même au fil des années et des décennies, ce qu'on pourrait appeler, c'est le thème de l'intervention de M. Bloch, le pour soi, la construction personnelle, à la fois comme enseignant, comme pédagogue, et maître d'une Torah si vivante, ce que j'appellerais aussi la Torah du Pardès, révélant les secrets des rapports entre le texte toraïque et ses commentaires, mais aussi, évidemment, des rapports entre la Torah, le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Et en faisant, si vous voulez, cette œuvre de pensée, au moment où Manitou a été l'architecte de la reconstruction de la communauté juive de France sur les cendres de la Shoah, en fait, sa démarche, tout comme son âme, si je puis me permettre d'intervenir ainsi, était avant tout ce qu'on appelle une neshama klalit, à savoir n'existant et ne fonctionnant que pour le bien de tout Israël. C'est comme si dans la conscience et dans la emouna que manifestait Manitou, d'un seul individu, de si haute teneur, se trouvait rassemblée en fait la conscience dûment éclairée et la confiance en Dieu, plénière et sans faille, et je dirais même si souvent triomphante, souriante, et malgré tous les déboires et les déconvenues d'une époque difficile, eh bien, cette confiance plénière de tout un peuple, portée par un individu. Manitou était aussi, et c'est une autre direction que peut déceler à son œuvre, et à sa pensée, il était très tracassé par ce qu'il a appelé la recherche en fraternité, dont nous parlera Youssef Hatoun, qui traverse en fait tout le livre de Bereshit, avec, comme on le sait, les épisodes partant de Caïn et Abel, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Ishmael, l'opposition des deux frères Esav et Yaakov, les enfants de Yaakov, les disputes des frères. Et Manitou est souvent intervenu pour dire que, non seulement dans le Sefer Bereshit, le livre des engendrements, mais aussi dans tout le Tanakh, avec l'histoire de Pérès et Zéra, et aussi de David et Yonatan, qui sont présentés comme des amis, mais qui étaient frères en pensée, frères en complémentarité, eh bien, toute l'histoire du Tanakh, c'est une recherche en fraternité, et je crois que c'est un des aspects importants de sa pensée. Seconde direction, qui concerne l'homme complet qu'était Manitou. On en a déjà parlé avec sa vie, mais ça s'est retrouvé pleinement dans son œuvre et dans sa pensée, puisqu'en devenant le défricheur sans pareil que l'on connaît, et même parfois le moniteur militant dont on a parlé des éclaireurs israélites, et certainement pas au sens militaire du terme, mais bien entendu comme le don de pouvoir effacer en lui le prat, l'individu, l'ego personnel, pour le bénéfice du klal, celui de la collectivité d'Israël. Ça donnait à Manitou la capacité d'affronter mille et une épreuves, et de la même manière, en devenant le véritable chef spirituel et éducatif de la communauté juive de France, et en devenant l'enseignant et le pédagogue hors pair que l'on sait, dont tout le monde a parlé, d'ailleurs le Rav Tzvi Yehuda Kook avait dit de lui à l'époque où il était encore en France, il l'avait qualifié un jour de prince de la Gola. Ce qui était un titre fameux, eh bien, en devenant aussi le maître en Torah, le maître à penser qu'il est devenu, parce qu'il a eu lui-même, comme on l'a fait remarquer, ses propres maîtres, on ne peut devenir maître que si l'on a des maîtres, et en devenant l'orateur captivant qu'il fut d'une Torah surtout transmise oralement, comme on l'a signalé, et comme l'a si bien fait remarquer Marcel Goldman dans ses deux formidables ouvrages, Inévitable, la parole et l'écrit. Et puis en devenant peu à peu le visionnaire de notre génération, Manitou a tracé une voie tout à fait unique, entamée avec résolution et je dirais avec le souffle long du coureur de fond à une époque de si grand désarroi qui fut celle de la fin des années 1940 en France. Car comme notre père Abraham, Manitou était au départ vraiment tout seul de l'autre côté du fleuve. Avec sa conscience, avec ses propres maîtres, presque secret de la Torah, cette Torah du Pardès dont je parlais, des quatre niveaux d'interprétation, il y a même un cinquième qui est le secret du secret, et son émouna en tête. Il était, comme l'a dit Albert Camus, mais dans un tout autre registre pour parler de la solitude et des liens de l'écrivain, même quand il est retranché, il était solitaire et solidaire. Quelqu'un, je crois que c'est Rav Hatoun, a fait remarquer tout à l'heure, qu'il était très présent, très proche, très solidaire, qu'il était très fraternel dans les rapports avec une salle ou avec des individus, mais il était aussi solitaire, retranché. Distanciation, présence et distanciation. Et il incarnait ce fameux apostrophe lancé par Bilam, qui a fait sortir de sa bouche des bénédictions et des malédictions. Am levadad lishkor. Ve'agoyim lo yitrachev, un peuple qui résidera dans l'histoire solitaire et qui ne se mélangera pas aux nations, ce qui signifie à notre niveau que, oui, Israël est ce peuple, et Manitou était son porte-parole, résident solitaire dans l'histoire dont souvent le monde a du mal à entendre la parole et la voix. Et c'est donc, je dirais, dans cette position abrahamique d'isolement et aussi de grande fraternité solidaire qu'il a lui aussi entendu l'injection du Lech Lecha. Là encore, d'ailleurs, on retrouve le sujet que va aborder Marcel, le Lech Lecha qui est interprété comme Rashi, comme « va pour toi, l'état anoukra », c'est-à-dire non pas pour ton plaisir dionysiaque, mais pour ta construction personnelle, pour ton accomplissement personnel. Le Lech Lecha d'arriver en Eretz Israël, et c'est ainsi que Manitou a pu se faire de nombreux disciples, qu'il a pu inviter sous sa tente de si nombreux étrangers, membres des nations, justement parce que le solitaire, mais profondément solidaire. Troisième remarque, Manitou comme dialogueur et communicateur abrahamique, justement, parce qu'il savait si bien dialoguer, communiquer, comprendre les manques et les besoins de l'autre et des autres, léguer et transmettre, en s'arc-boutant sur les solides assises des secrets profonds d'une Torah de vie qu'il expliquait si clairement aux modernes et aux occidentaux, juifs et non-juifs, dans le langage qu'ils pouvaient comprendre et dans les termes qu'ils pouvaient comprendre, et audibles, des termes qui étaient audibles par leur propre conscience, eh bien, il a pu devenir cet initiateur, je dirais plutôt ce passeur, comme justement Abraham Ivri qui est le passeur, ce catalyseur exigeant du dialogue franc, argumenté et sans concession avec les autres spiritualités et religions. On en a parlé tout à l'heure, il s'agisse des chrétiens, des musulmans, et y compris des bouddhistes, puisque, comme vous le savez, Manitou est un dialogue construit et approfondi avec le Dalai Lama. Et je crois que cette démarche a peut-être jeté les jalons renouvelés d'une spiritualité noachide, dont va nous parler Uri Cherki avec les non-juifs, juste et méritant. Je voudrais juste à ce propos citer une très, très rapide anecdote que j'ai relatée au docteur Kojinski, qui est rapportée dans son livre de photos et de souvenirs, et qui marque une séance à laquelle j'ai assisté à Paris lorsque j'accompagnais Manitou dans une tournée de conférences. L'ambassade chrétienne, la section française de l'ambassade chrétienne pour Israël, organisait un déjeuner dans un restaurant cachère de la rue Richer pour faire connaître ce qu'on appelait à l'époque, et ce qu'on appelle toujours la lecture hébraïque de la Bible, aux disciples de l'ambassade chrétienne, qui étaient donc tous des chrétiens. Et Manitou, je crois que c'était la parachat Vaïgash. Manitou a fait un développement hallucinant sur le sens de la rencontre entre Esav et Yaakov. Et après son quart d'heure d'intervention, qui était juste avant le repas, il s'est tu, et c'est Vaishla, c'est Vaishla, puisqu'il envoie les cadeaux. Et bien, après cette allocution, qui était une courte étude de la paracha, il y a eu ce que j'ai appelé un silence de stupéfaction. C'est-à-dire cet auditoire qui n'avait jamais entendu un maître de Torah lire la Bible n'a pas pu articuler pendant à peu près une période qui a dû, je crois que ça a duré une minute trente, ce qui est énorme en public, un silence de stupéfaction. Et je crois que c'était ce don d'expliquer, de dialoguer, qui fit de lui le transmetteur d'un savoir vivant, mais aussi, et je voudrais signaler ce fait qui a été abordé par le Rav tout à l'heure de la Khemdat Adaro, Mal Rav Madar, Khemdat Yehuda, excusez-moi, c'est Khemdat Adaro, c'est autre chose. Et je voudrais dire que Manitou avait aussi, par ce don de pouvoir communiquer du singulier à l'universel, on en reparlera tout à l'heure, il avait été aussi un diplomate hors pair au milieu des années 1980 avec le fameux dialogue spirituel qu'il avait engagé à la demande du président Biya du Cameroun, qui en fait avait un besoin de spiritualité, comme on a expliqué tout à l'heure, et tout cela a débouché sur le premier établissement des liens diplomatiques d'un grand pays africain avec Israël, suite aux nombreuses fermetures d'ambassades qui avaient été consécutives au choc pétrolier et surtout à la guerre de Kippour en 1973, alors qu'Israël était présent en Afrique. Et si vous le savez peut-être déjà, c'est Manitou en fait qui a été l'artisan de cette ouverture diplomatique. Et Manitou a donné ainsi une magistrale leçon de Torah et de géopolitique internationale, non pas seulement au président Biya, mais surtout aux membres du gouvernement d'Union d'Israël, dans l'avion officiel qui menait la délégation dans laquelle il faisait partie, puisque c'est grâce à lui que ces liens s'étaient rétablis. Manitou a donné dans l'avion un Dvar Torah, où se trouvaient donc tous les ministres du gouvernement, qui a lui aussi, et c'est Yitzhak Shamir en personne qui me l'a raconté, c'était lui le Premier ministre, Peres était ministre des Affaires étrangères à l'époque, gouvernement de l'Union, Manitou a donné un Dvar Torah. C'était la première fois que des ministres, la plupart laïcs évidemment du gouvernement d'Israël, entendaient une Torah venue d'ailleurs, comme l'a dit le Rav tout à l'heure, qui venait d'un autre plafond, déplafonné. Et Yitzhak Shamir m'a raconté qu'alors dans l'avion, il y a eu aussi un silence de stupéfaction. Quatrième remarque concernant le particulier universel, s'articulant, je dirais, de manière si forte dans la pensée de Manitou. En fait, et je crois que c'est là on touche à la caractéristique la plus centrale, de par son œuvre massive, d'ailleurs, sur ce mot, souvenez-vous que lui-même Manitou disait souvent d'un événement ou d'un fait, ou d'un verset, qu'il était empreint de massivité. C'est un mot qui revenait souvent. De par son itinéraire colossal, même s'il fut toujours un homme simple et dépouillé, qui aimait plaisanter, jouer avec les mots, fumer aussi et déguster de bons mets. D'ailleurs, m'a-t-il fait remarquer une fois lorsque je l'accompagnais en conférence, il faut choisir. Soit on parle, soit on mange. Et Manitou ne mangeait qu'après les conférences qu'il donnait, comme un vrai roi de la tribu de Yehuda. Et bien Manitou a lui-même pleinement réussi à appliquer et à concrétiser dans son œuvre même cette règle d'or de la spécificité juive, voulant que dès lors qu'Israël assume pleinement et avec le sourire et avec sérénité sa spécificité, qui doit être dûment informée par le savoir de la sagesse juive, assume son particularisme, ou plutôt je dirais moi sa singularité, en connaissant son Dieu, ses exigences, et en approfondissant sans cesse la parole bien vivante qui en émane, alors seulement Israël, tout comme l'a parfaitement fait Manitou dans toute son œuvre et sa vie, venant ensuite s'installer en Eretz Israël, après la guerre des six jours et la libération de Jérusalem, et bien c'est seulement alors qu'Israël, dans ce cas, parle et articule le langage de l'universel, parle et se fait entendre et comprendre des nations en donnant un sens profond et en proposant un décodage ontologique et profondément humain à ce que Manitou appelait le naturel froid et indifférencié des lois de ce monde, de l'univers, du temps de l'homme, du politique et de l'histoire. Seulement quand Israël campe dans sa spécificité, sa particularité, sa singularité, c'est seulement là qu'il peut se faire entendre des nations. Manitou définissait ainsi une notion connexe, qui est celle de la Kedusha, vers laquelle peut tendre tout le peuple d'Israël dans ses rapports avec Dieu, comme ce qu'il appelait l'unité des valeurs. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha ? Ce n'est pas la sainteté, c'est une trahison de traduction, mais c'est l'unité des valeurs, à l'opposé de l'antagonisme des valeurs, marqué par ce qu'on appelle la Touma, l'impureté, le mot est lui aussi insupportable. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien d'autre que l'inverse, c'est-à-dire le manque de présence divine. À preuve formelle et charnelle, le fait surprenant, qu'un cours de Manitou très précis, instrumenté, car toujours fondé sur tel ou tel texte de la Torah et de ses commentaires, toujours cité en référence, pouvait s'adresser et être compris et apprécié aussi bien par des initiés en Torah, qui dégustaient des finesses inouïes, que par des débutants ou des non-juifs. Le même cours. Cinquième et dernière remarque, sur le moteur de l'être de cette Neshama Klalit qui fut celle de Manitou. Eh bien, l'obsession éthique de Manitou était que l'homme et le juif, comme il disait, le juif comme une certaine manière d'exercer le métier d'homme, eh bien, puisse mériter l'être qu'il a reçu de Dieu, ce don formidable de la vie octroyé par le Créateur. Or, s'il est bien un maître juif, un passeur et un transmetteur de ces temps de fin d'exil qui assumait ce mérite d'être, eh bien, c'est bien Manitou à Ivry, le juif redevenu israélien et hébreu, quand il faisait souvent référence aux exils successifs d'Afrique du Nord, puis de la France, qui ont été vécus par une bonne partie de notre génération et ont traversé les terres francophones. Eh bien, pour conclure, je dirais qu'il y a un signe des temps bien concret d'aujourd'hui, qui s'exprime dans le délire médiatique actuel de la délégitimation systématique d'Israël, un signe des temps qui est justement lié de si près à cet autre enseignement tellement vivant de Manitou à Ivry. C'est le fait que le pire des Amalek d'aujourd'hui déteste et haït davantage l'Israélien, le juif redevenu hébreu sur sa terre et dans son état souverain, et bien plus, il le hait bien plus que le petit juif exilique du ghetto synagogal au communautaire qui tente vraiment vainement de se fondre dans le paysage tourmenté de la galoute. Et bien c'est pour cela, chers amis, que l'ancien prince de la galoute, qu'il était dans les années d'exil français, les années 50 et 60 en France, bien c'est grâce à cela et c'est pour cela que Manitou a pu devenir, de par l'ampleur de son œuvre, et bien, je dirais, l'un des princes de la Torah d'Eretz Israël. Et avant de passer la parole au Rav Uri Cherki, je voudrais dire deux mots sur justement ce que le Rav a pu... Rav Uri Cherki est rabbin et conférencier, il est directeur de la section israélienne du Machon Meir à Jérusalem. Il est aussi enseignant au Ternion de Haïfa, c'est toujours le cas, n'est-ce pas? Bon, alors c'est une faute de biographie. Et puis il est président de l'association Brit Olam qui réunit les Bnei Noach, ceux qui observent les lois Noachim. Il est rabbin aussi de la communauté Bet Yehuda dans le quartier de Kiryat Moshe à Jérusalem. Au nom de Manitou, bien sûr, puisque c'est Rav Yehuda, je passe la parole à notre premier intervenant, le Rav Uri Cherki.
Toda Rabba, Shalom, bonsoir tout le monde. Je me rappelle que lorsque nous étions réunis à la grande soirée avec Manitou au théâtre de Jérusalem, dont c'est le film tout à l'heure, alors dans la Hapsaka, j'ai été voir Manitou, il me dit, tu sais, on a parlé de tout sauf de l'essentiel, mais c'est pas grave. Et alors, effectivement, pourquoi c'est pas grave de ne pas parler de l'essentiel? Parce que on ne peut pas parler de l'essentiel. L'essentiel passe à travers un rayonnement, à travers un visage, à travers une expérience qui n'est pas exprimable par les mots. C'est vraiment ça qu'il voulait dire. Pourtant, il faudrait essayer de parler quand même un peu de l'essentiel. Comment définir l'essentiel pour Manitou? C'est assez difficile. On peut parler éventuellement de l'universel. Effectivement, chez Manitou,
l'universel est une des dimensions fondamentales du judaïsme. C'est pas un surplus, c'est pas un bonus, c'est quelque chose de fondamental. Et pour, essayer de comprendre ce que ça veut dire, il faudrait d'abord commencer par une critique du judaïsme, ce qui a été formulé par Henri Bergson. Henri Bergson, d'origine juive, mais très éloigné de ses racines juives, affirmait qu'il y avait une grande supériorité du christianisme par rapport au judaïsme, pour raison très simple, c'est que le judaïsme, tel que le comprenait Bergson, parle d'un Dieu qui ne s'occupe que de son peuple. Tandis que le christianisme a pu dépasser le particularisme d'Israël, et c'est comme ça que le Dieu de la Bible est devenu universel, donc supériorité du christianisme selon Bergson. Et de ce point de vue-là, Bergson était un grand chrétien, d'ailleurs comme le disait Manitou, il avait été une fois dans une réunion avec un maître chrétien qui expliquait que Bergson était un grand juif, et Manitou a expliqué qu'il était un grand chrétien. Et alors, évidemment, il y a une ignorance profonde de ce qu'est le judaïsme, et il faut effectivement remettre les choses en place. Il y a un universel d'Israël, on pourrait dire même qu'Israël est universel dès son départ, puisque lorsque Abraham a été élu, la première chose qui lui est dite, c'est qu'il est élu pour que soient bénies par lui toutes les familles de la terre, Vénivrechou Bechakol Mishpachot Adama. Donc il est une absurdité de parler du particularisme d'Israël comme étant replié sur lui-même alors qu'il a une finalité universelle. Cependant, ce qu'il faudrait se demander, c'est comment est-ce qu'une critique pareille a pu être formulée. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'un grand penseur de la pensée occidentale, comme Henri Bergson, a pu penser, effectivement, que le judaïsme ne parlait pas d'universel? Eh bien, la réponse, c'est qu'il avait raison. C'est-à-dire que, dans les faits, dans le concret de la vie d'Israël, tel que c'était vécu à l'époque où Bergson a agi, eh bien, il était impossible qu'un message universel soit émané d'Israël et soit également compris par les nations. Il y a eu effectivement une tentative que nous connaissons tous, la tentative faite par le Rav Ben Amozeg et Aimé Pallière. Vous connaissez cette histoire de ce catholique français qui, très impressionné par une prière de Kippour, vient voir un rabbin en France pour se convertir. Il lui dit « Non, je ne te convertis pas ». Il va voir finalement le Rav Ben Amozeg à Livourne qui lui dit « Je te propose mieux, tu vas devenir le grand prêtre du noachisme, tu vas être le fondateur, le refondateur de la religion pour les nations d'Israël ». Et finalement, bon, ça a été un échec, et Manitou était tout à fait conscient de l'échec d'Aimé Pallière, qui a mis en forme les écrits de son maître Israël et l'humanité, mais qui finalement est devenu le prédicateur de l'Union libérale, juive libérale à Paris, pour expliquer à des juifs qu'ils devaient respecter le Shabbat, et qui finalement s'est fait enterrer dans un cimetière chrétien, après avoir reçu les sacrements, et quand même on a fait un kaddish sur sa tombe. Enfin bref, c'était un fiasco total, ça n'a pas marché. Et c'est pour ça que Manitou avait toujours une sorte de réticence par rapport à l'enseignement du noachisme, justement. Bien qu'il en parlait, et qu'il avait des élèves non-juifs qui se présentaient comme des bédés noirs, je pense entre autres à Jean Vassal, mais il y avait de sa part une certaine réticence par rapport au bien fondé pratique de la chose. C'est-à-dire, il se demandait, est-ce que c'est véritablement réalisable, étant donné l'échec concret des Pallières. De plus, une question que Manitou éveillait souvent, il posait des questions sans vouloir y répondre, pour encourager la pensée, il disait, comment est-ce qu'on peut reconnaître que le centre de la sainteté se trouve quelque part et vouloir rester à l'extérieur. C'est-à-dire le statut du Ben Noir, le Ger Toshav, est existentiellement très difficile à vivre, et il reste en fait un problème. Ce que je peux vous dire de ce point de vue-là, du point de vue de mon expérience personnelle, parce que je suis en contact quand même avec des Noachides, c'est que la question reste sans réponse, mais ils sont très contents quand même. C'est-à-dire, ils se disent... Par exemple, un Noachide de Hollande m'a dit récemment, quand on me demande pourquoi est-ce que j'accepte d'être un juif de seconde zone, ben je dis, ben je suis très content, et ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à se convertir. Et ou bien, comme m'a dit une batte noire d'Indonésie, avec qui j'ai eu un entretien, elle m'a dit, mais si j'ai bien compris, alors ça signifie appartenir à la sainteté de l'extérieur, n'est-ce pas? Et donc, disons que le statut du Ben Noir est réalisable, même si nous avons des questionnements de logique par rapport au bien fondé du statut. En tout cas, Manitou était très préoccupé justement par ce qu'Israël a donné aux nations. Et alors là, vous connaissez bien, toute l'œuvre de Manitou tourne autour du livre de Bereshit, et dans le livre de Bereshit, nous avons tout un enseignement, je ne dirais pas une réflexion, mais tout un enseignement autour justement du devenir de l'humanité et comment juger l'humanité. Et là, je voudrais très rapidement amener un verset dans la paracha de Noach, à la fin du chapitre Yud, au verset Lamed Aleph, 31. Elé Beneshem, voici les fils de Shem. Ça clôt la liste des peuples sémites. Elé Beneshem, voici les fils de Shem. Les Mishpechotam, l'Ilshonotam, selon leur famille et leur langage. Beartzotam, les Goyehem, dans leur pays et selon leur nation. Alors, c'est déjà très compliqué comme ça. On va essayer de décortiquer un tout petit peu. Les groupements humains sont désignés par la Torah par deux termes différents. D'une part, ils sont appelés Mishpachot, et d'autre part, ils sont appelés Goyim, des familles et des nations. Et c'est deux modes de collectivité tout à fait inverses. C'est-à-dire, quand on est une mishpacha, une famille, c'est qu'on entretient des relations, en principe, amicales avec les autres familles. Vous venez manger chez nous Shabbat, est-ce qu'on ne va pas marier nos enfants ensemble, etc. C'est-à-dire, être un groupe qui est défini comme mishpacha, ça suppose que l'autre mishpacha, l'autre famille, est en relation d'amitié. Et par contre, quand on parle de nation, d'égoïm, alors les goïms sont des entités politiques. Les entités politiques considèrent celui qui n'appartient pas à cette entité comme étant l'étranger et donc l'ennemi potentiel. Il est exclu de l'humanité. C'est-à-dire la nation est une micro-humanité et donc elle considère l'autre comme dangereux et donc elle s'en défend. Et donc la situation naturelle entre deux goïms, c'est la guerre. À tel point que le prophète nous dit, viendra un temps où un goï ne fera pas la guerre à un autre goï. Loïsa goï el goï cherev. C'est donc une nouveauté. Comment? Ils sont des nations, ils ne se font pas la guerre quand même. C'est quand même bizarre. En tout cas, donc, la Torah nous parle ici d'un passage de l'état de Mishpachot à l'état de goïm. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui a fait le changement? Eh bien, le changement, c'est qu'est-ce qui va définir la collectivité? La collectivité appelée Mishpacha est définie par le langage. Les mishperhotam lilshonotam. Le langage, ça veut dire la culture. C'est-à-dire, le mot lachon en hébreu n'est pas le même que le mot safa. Nous avons deux mots en hébreu pour dire le langage, safa et lachon, et c'est pas exactement la même chose. Safa, c'est la lèvre, c'est-à-dire ce qui va à l'extérieur. Tandis que lachon, ça vient à l'intérieur, c'est ce qui pétrit. Et ça, c'est donc le langage intérieur, l'elshonotam. Quand on dit les mishperotam, l'elshonotam, ça veut dire que ce qui définit les groupements humains, c'est tout d'abord la culture, dans le sens noble du terme. Et tandis que quand on parle de be'artsotam, dès que la définition est devenue territoriale, alors c'est devenu les goyehem, ce sont devenus des nations. D'où le problème, comment éviter la guerre? Alors il y a deux options possibles, soit uniformiser l'humanité, c'est ce qu'on appelle la tour de Babel, revenir à une humanité dans laquelle il n'y a plus de différence. Comme disait Manitou, c'est éliminer la... pour ne pas donner de réponse, éliminer la question. C'est-à-dire, on va détruire ce qui fait la différence entre les hommes, on va retrouver un seul type d'identité humaine, et donc on va effacer l'humain en vérité. C'est ce qui s'est passé lors de la tour de Babel. C'est la première option, qui est donc une option de violence parce qu'elle fait violence à la richesse des identités. L'autre possibilité, c'est de conserver les nations. Alors dans ce cas-là, on va entraîner la guerre. Alors il y a une possibilité intermédiaire qui est la solution, du point de vue du texte, c'est l'apparition d'Abraham. Abraham va fonder le peuple d'Israël, pour fonder une identité nationale qui va ramener les nations au statut de Mishpachot. Et regardez bien la précision du texte. Ve'esra le goy gadol, je ferai de toi une grande nation. Ve'nivrechu becha kol mishpachot adama, et par toi seront bénies toutes les familles. Ce qui veut dire que c'est la seule, l'identité nationale d'Israël est la seule légitime dans le concert des nations, parce qu'elle est universelle dès le départ. Elle a une finalité universelle, et donc elle a le droit, elle a peut-être même le devoir, de se conserver en tant que nation, en tant qu'entité politique, au moment même où les nations, justement, disparaissent en tant qu'entité politique pour retrouver la fraternité universelle. On pourrait dire que peut-être que le déchaînement médiatique dont Richard Darmon a parlé tout à l'heure, contre l'État d'Israël, justement, vient de cette intuition-là. Les nations ont le sentiment qu'on est arrivé au moment du globalisme, du mondialisme. Alors qu'est-ce que c'est que cette entité qui se replie sur elle-même, qui prétend au droit à la particularité, à un moment justement de cosmopolitisme? Le village global, oui c'est ça, je connais les mots en hébreu, je fais l'effort de parler en français. Et donc la solution justement, ce qu'explique la Torah, enfin la manière dont Manitou nous a appris à lire la Torah, mais quand on lisait avec Manitou, après on se rendait compte qu'on ne pouvait pas la lire autrement, c'est que cette identité nationale a une finalité universelle. Mais alors, quel est le contenu de cette identité, de cette finalité universelle? Parce qu'on peut parler de beaucoup d'universels. Par exemple, la musique aussi, c'est de l'universel. Beethoven, c'est de l'universel. Et alors, de quelle manière ce peuple est-il universel? Alors, il y a différentes options. Vous connaissez l'option galoutique, celle que Manitou faisait remonter jusqu'à Nahor. et puis après chez Lavanne, ce qui est pas une blague, et après il fallait assortir, et c'est ce qui aboutit finalement de nos jours, par exemple, à la pensée du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui voyait la finalité du peuple juif, la vocation du peuple juif, de vivre en galoute. Et donc pour le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le sionisme était, si vous voulez, l'antithèse du judaïsme, puisque le judaïsme a pour finalité de sanctifier par ses communautés éparses dans les grandes civilisations, de sanctifier les civilisations, de telle sorte qu'il faut enseigner, par exemple, aux Allemands, la sainteté et la morale par l'accomplissement des mitzvot à Francfort, et viendra un jour et les Allemands nous diront merci. Et enfin, bref, c'est une option possible. Et puis, l'autre option, c'est justement le sionisme, qui mitzion tetzetora. Mais alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, les prophètes nous ont expliqué que viendra un temps où, comme on dit dans l'Aftara de Hanouka et de Béalotra, Vénil-vous goyim rabim et lachem bayom ahou. De nombreuses nations s'associeront à Dieu en ce jour-là, ve'ayuli le'am, et seront pour moi un peuple. C'est-à-dire, le message d'Israël concerne les collectivités, les entités politiques, et non pas les individus. C'est-à-dire, s'il s'agissait uniquement de sanctifier la vie individuelle, eh bien, il y a des monothéismes pour ça. Et les monothéismes, en tout cas, se prétendent comme étant ceux qui viennent sanctifier la vie individuelle, la rendre morale, tandis que la chose étatique, le cadre de l'État, le politique, n'appartient pas à la sainteté. Et bon, je voudrais vous ramener à ce propos très rapidement. Vous avez des souvenirs certainement de littérature française. Il y a un livre gigantesque, Les Misérables de Victor Hugo, qui a une thèse extrêmement importante. C'est que la vie sur Terre est amère à cause de la politique. L'État, les cadres de l'État sont cruels, mais avec un peu de charité chrétienne, Jean Valjean, on peut adoucir la pilule. Mais finalement, ce que ça signifie, c'est que c'est dans le destin individuel que tout se joue. Au niveau du cadre politique, le klal, ça, il n'y a rien à faire, c'est pas sanctifiable. Tandis que le projet, et dans ce cas-là, c'est déjà un aveu d'échec dès le départ, parce que ce qui est fort sur Terre, c'est la politique, c'est pas l'individu. Le levier des forces vitales de ce monde, c'est justement le cadre politique. Et y renoncer, c'est déjà donner la place aux méchants. C'est effectivement ce que disait Manitou quand le fondateur du christianisme a dit qu'il ne fallait pas lutter contre les méchants. Alors, comme il disait, Yesh Tvarim Bego, il y a quelque chose là-dedans. C'est donc qu'on admet le méchant. On admet que finalement, c'est le mal qui va l'emporter sur terre et que donc on ne peut sauver que l'âme.
Oui, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde.
Oui, mon royaume n'est pas de ce monde. Ben, ça veut dire que ce monde, il appartient aux méchants, tout simplement. Comme l'a dit, c'est bien Nachmanide dans la disputation de Barcelone, au roi d'Aragon, il lui a dit, mais enfin, majesté, au temps du Messie, on dit qu'un peuple ne fera pas la guerre à un autre peuple. Mais est-ce que vos chevaliers pourraient supporter une situation pareille? De ne pas apprendre la guerre. Et donc, il y a un projet d'Israël qui concerne les nations, les entités politiques. Venez-vous, goyim rabim. Et alors, qu'est-ce que nous avons à proposer justement à ces goyim? Goyim, dans le sens biblique du terme, c'est pas le goy, ce sont les nations. Eh bien, on leur propose ve'ayuli le'am. Vous serez pour moi un peuple. Vous serez donc des peuples de Dieu. C'est surprenant parce que nous, les Juifs, nous savons c'est quoi le peuple de Dieu, c'est Israël. Et les autres sont des peuples, mais ce n'est pas les peuples de Dieu. Et viendra un jour, ben, ils apprendront à être comme nous. Ils arriveront donc à sanctifier leur identité collective, et donc ils n'auront même plus besoin de se convertir, parce que se convertir, c'est se détacher, c'est se déraciner de son cadre national originel. Ils pourront rester dans leur cadre, et ils seront sanctifiés. Ve'ayuli le'am. Et alors, et nous? Ah ben nous, on deviendra un peuple de prêtres. Ce sera comme des Kohanim. Et nos Kohanim, alors? Ah ben nos Kohanim seront comme des grands prêtres, comme le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, ben, il deviendra Superman. C'est-à-dire, il y a une ascension permanente de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage pour permettre l'ascension, qu'il n'y ait pas de nivellement par le bas. Et donc il y a ici un projet universel. Ce projet universel, puisqu'il se passe dans le cadre d'un État, n'est réalisable que lorsqu'il y a retour politique à l'État d'Israël. Donc on peut dire que ça fait seulement 64 ans que nous sommes en situation de réaliser le projet d'Abraham. Jusqu'à présent, c'était en veilleuse. stand-by, c'était pas réalisable. Et donc, si on parle d'un universel, cet universel ne peut être que sioniste, puisqu'il vient enseigner aux nations comment sanctifier leur vie. Alors, si c'est sérieux ce que je dis là, ce travail devrait être fait par les chefs de l'État, c'est-à-dire le Premier ministre, le président de l'État d'Israël devrait aller voir les présidents et premiers ministres des différentes nations de la Terre et leur dire, voilà, nous, les Israéliens, nous avons un projet pour vous, comment sanctifier votre État. Vous rigolez, hein? Comme disait Manitou, ah bon, alors c'est vrai ce en quoi nous croyons? Bon, certainement, oui, Obama. Mais c'est comme ça que ça devrait être. Alors, pour l'instant, pour autant que je sache, ce n'est pas encore vraiment le cas, bien que on commence à prendre conscience dans certains cercles du, par exemple, du Misrad Achutz, du ministère des Affaires étrangères, et dans l'entourage également du Premier ministre, que le discours israélien n'est pas à sa place, il n'a pas un véritable centre. C'est ce qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui aux goyim quand on veut leur dire que nous sommes des gens bien, c'est que nous avons nous aussi des homosexuels, vous voyez, donc nous sommes bien. Nous avons tout, oui, il y a des trans, Et puis, à part ça, nous sommes corrects avec les minorités chez nous. Et puis nous envoyons des délégations pour aider les malheureux quand il y a un tremblement de terre, etc. Et on ne se rend pas compte. Et à part ça, nous avons une grande ville touristique, Jérusalem. Il y a quelque chose qui cloche un peu dans ce qu'on appelle la Hasbara. Mais on commence à se rendre compte que, puisque le débat est spirituel, l'éveil du printemps arabe, comme on aime l'appeler, pose ce genre de problème, est-ce qu'il n'y aurait pas un dialogue qui devrait être instauré au niveau spirituel par l'État d'Israël? Mais enfin, pour l'instant, on est encore assez loin. C'est au niveau, si vous voulez, de première pensée, d'ébauche, ouais, des éclats de pensée. Mais pour l'instant, il y a ce qu'on appelle du noachisme. Il y a, parmi les goïms, une écoute très profonde de l'État d'Israël. On se demande qu'est-ce que l'État d'Israël a à donner. Et ça se passe à différents niveaux. Aujourd'hui, disons plutôt que du temps de l'action forte de Manitou, le noachisme était un phénomène extrêmement rare. Et donc Manitou avait beaucoup investi dans ce qu'on appelait le dialogue interreligieux. Les amitiés judéo-chrétiennes, les rencontres avec le soufisme, avec le Dalai Lama, et des représentants des différents cultes. C'était très important pour Manitou, et il faut comprendre également l'arrière-plan historique de cela. C'était un moment où il fallait, après la Shoah, rectifier ce qu'il y avait de plus choquant dans le christianisme, par exemple, dans sa relation envers Israël. Et Manitou a été parmi les acteurs, justement, de ces changements de position qu'on connaît dans l'Église. On peut dire qu'un effort très important a été fait du point de vue de la communauté chrétienne, en tout cas catholique et également protestante, pour reconnaître, et alors c'est énorme ce que je dis là sur le plan théologique, pour reconnaître la légitimité du judaïsme d'un point de vue chrétien. C'est pas une chose évidente. C'est-à-dire, pour les chrétiens, le judaïsme a toujours été illégitime. C'est l'ancienne alliance, c'est aboli. Ah, maintenant, on entend des discours de différents niveaux où on admet qu'il y a quelque chose d'un point de vue chrétien dans le judaïsme. Ça ne veut pas dire qu'ils ont quitté la Avodah Zarah, loin de là. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Et aujourd'hui, ce discours est réutilisé et je pense qu'il est important d'être conscient du danger. Ce danger n'existait pas encore du temps où Manitou, justement, agissait. C'est qu'aujourd'hui, des chrétiens nous disent « Nous avons fait l'effort de reconnaître votre légitimité d'un point de vue chrétien. Alors vous, les juifs, nous vous demandons de faire le même effort et de reconnaître la légitimité du christianisme d'un point de vue juif pour les goïms. » Et pour tout vous dire, il y a même des rabbins qui se laissent tenter à ce genre de choses, par amour justement de la fraternité universelle, etc. Et pense parfois être dans le prolongement, dans la mouvance de l'enseignement de Manitou. Je pense que Manitou aurait été justement très critique par rapport à ça, mais ça, il faudrait lui demander, il n'est pas là pour qu'on lui demande. Mais je veux dire qu'il faut bien comprendre, quand on parle de dialogue interconfessionnel, interreligieux, il faut savoir à quoi on veut arriver. Alors, aujourd'hui, on est arrivé à une situation où des représentants des différents cultes se rencontrent. Il y a une collation végétarienne et on parle avec beaucoup d'amitié et d'enrichissement. Et puis après, il y a une déclaration mutuelle dans laquelle on condamne l'utilisation de la religion, l'utilisation de la violence au nom de la religion. Voilà. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Et alors, bon, vous avez dans les journaux, dans les médias, alors on dira, voilà, Richard Darmon va faire un article là-dessus. Ben voilà, nous autres, les représentants des cultes, nous sommes contre la violence. Très bien. Mais le problème, comme je l'ai dit d'ailleurs à des intervenants dans ce genre de réunion, c'est que c'est très joli ce que vous dites, mais c'est pas vous qui décideront de la violence ou pas. Ce sont les hommes politiques qui vont décider. Finalement, le religieux essaie de se trouver une place au soleil dans le discours international, mais en fait, il n'est pas écouté, il ne signifie rien. Et donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a une actualité réelle de l'écoute parmi les nations de ce que le peuple d'Israël a à dire. Parfois, c'est par motivation chrétienne, évidemment. C'est souvent, ça trouve souvent sa source, justement, dans une interrogation qui vient de la hargne internationale contre Israël. Les gens se disent, mais enfin, les gens sont pas fous, ils se disent, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires? On n'arrête pas d'entendre, tous les jours, à la télévision, à la radio, dans les journaux, qu'Israël est un État scélérat. Alors, les gens ne sont pas des imbéciles. Ils se disent, mais enfin, il faudrait quand même vérifier ça sur le terrain. Et puis, on se rend compte que la violence, elle vient d'ailleurs. Hein, on n'a pas le droit de le dire, ce n'est pas politiquement correct. Mais la violence se trouve ailleurs. Et alors, les gens se disent, alors peut-être qu'il y a ici quelqu'un dont on essaie de faire taire le discours. Et c'est pour ça que des goïms viennent et écoutent. C'est en réponse justement à cette demande que j'ai aidé que j'ai fondé l'association Brit Olam qui s'occupe des Noachides. Et effectivement, il y a aujourd'hui une écoute réelle. Surtout qu'aujourd'hui, la conversion n'est plus une option toujours possible pour celui qui se rapproche du judaïsme. Je vais vous raconter une histoire. Manitou avait rencontré une fois un homme d'église qui lui a dit, voilà, Manitou, je suis arrivé à la conclusion que c'est le judaïsme qui a raison. Alors Manitou lui dit, dans ce cas-là, pourquoi vous ne vous convertissez pas au judaïsme? Il dit, eh ben, c'est très simple, parce que je suis alsacien et que j'aime la choucroute. Alors Manitou dit, mais il y a de la choucroute cachère. Elle dit, mais c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Essayez. Parce que Manitou, qui était très juif, savait l'importance du réel. Et on est ce que l'on mange. Et donc, la cuisine, la table, ça fait partie de l'identité. Et essayer d'arracher quelqu'un à sa choucroute, c'est aussi violent que d'essayer de l'arracher à sa tfina. Non, vous vous rendez compte? Vous pouvez essayer. Je voudrais également vous rappeler un événement qui me touche personnellement, puisque vous savez que Manitou avait des relations suivies avec des hommes d'église. Un jour, Manitou m'a dit, voilà, écoute, j'ai été invité par un groupe d'ecclésiastiques, je ne peux pas y arriver, mais est-ce que tu veux bien aller leur parler? Je dis, mais dans quel intérêt, Manitou? Il me dit, mais pour ne pas leur dire non. Bon, alors j'ai été, et j'ai demandé, c'était un groupe d'ecclésiastiques, il y avait des bonnes sœurs, il y avait un peu de tout, et je leur dis, mais de quoi vous voulez que je vous parle? On vous demande, monsieur le rabbin, vous savez, ils ont un ton comme ça ecclésiastique, est-ce que vous voulez bien nous parler de la signification religieuse de Yom HaAtzmaut? Bon, j'ai accepté. Et alors, je leur ai expliqué, on a parlé pendant 2h30, c'était très douloureux, pas pour moi. Et alors, j'aurais expliqué, écoutez, vous m'avez demandé de parler de la signification religieuse de Yom HaAtzmaut, mais en vérité, je ne peux pas vous parler de ça parce qu'il n'y a pas de signification religieuse à Yom HaAtzmaut. De même qu'il n'y a pas de signification religieuse à la fête de Pessah, ou au Shabbat, ou à aucun des commandements du judaïsme. Ah bon? Ah ben oui, ben simplement parce que le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est une identité nationale. Être Israël, c'est d'abord appartenir au peuple, à la nation d'Israël, et puis accessoirement, il y a également une traduction religieuse de la chose, mais fondamentalement, c'est national. Alors, ils étaient très surpris, et ils ont commencé à me poser une série de questions. Alors, tenez-vous bien, faites bien attention aux questions qu'ils ont posées. Ils ont demandé, mais enfin, comment est-ce qu'on peut adhérer à un État qui transgresse le Shabbat, où les filles sont mal habillées, et il faudrait quand même attendre que le Mashiach vienne. Est-ce qu'il ne faut pas que le temple tombe du ciel? Et est-ce que ce n'est pas Kochiv Otsem Yadi Asalit Achaïlazé, ce ne serait pas ma force et la puissance de mon bras m'ont fait cette réussite? C'est critiqué par la Torah. Toutes ces questions-là, je les connaissais, mais d'ailleurs. Et j'ai découvert à ce moment-là l'origine. Et alors, bon, il a fallu effectivement expliquer. Et alors, ils m'ont dit, finalement, c'est très intéressant ce que vous avez dit, nous n'arrivons pas à penser comme vous parce que nous sommes chrétiens et pas juifs. Bien des choses au Rav Ashkenazi. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a une oreille attentive. Cette oreille vient d'un questionnement. Alors, le questionnement, ça ne veut pas dire que immédiatement vous allez voir des goyim en quantité, par millions, de grâce, faites-nous béné noir. Non, ce n'est pas comme ça. Mais il y a un mouvement, et ce mouvement est amorcé même au sein de l'islam. Il faut bien le savoir. Ça commence même au sein de l'islam. Vous êtes tous au courant, ça a été publié récemment, le Talmud a été traduit en arabe. Avec une introduction antisémite, mais il a été traduit en arabe. Il y a quand même toute une équipe de chercheurs musulmans qui s'y sont mis. En Jordanie, pour traduire le Talmud en arabe. Mais je veux dire, plus intéressant que ça, à mon avis, ça a été moins mis en évidence, il y a une traduction en arabe du Kuzari. Oui, vous allez me dire, oui, le Kuzari. Oui, mais le Kuzari a été écrit en arabe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est simplement, c'est écrit en arabe, mais en lettres hébraïques. Alors, ils ont remis en lettres arabes, et comme c'est fourré d'expressions hébraïques, alors ils ont traduit les mots hébreux en arabe. C'est-à-dire que ce livre, le livre Kuzari, qui est un des livres fondamentaux. Exactement. Mais c'est pour l'instant coincé à Ramallah parce que c'est dans des entrepôts, effectivement, parce qu'il y a un problème, l'État d'Israël ne laisse pas passer, il y a tas de problèmes. Enfin, en tout cas, le Kuzari, quand même, qui était un des livres fondamentaux de la pensée juive, a été un sujet d'intérêt dans le monde musulman. Mais je me rappelle que Manitou disait « ça viendra, t'en fais pas ». Il disait « viendra un moment, on ne pouvait pas s'imaginer quand le christianisme aurait des changements il y a 50 ans, et pour l'instant, ça viendra bientôt ». Et bien, Baruch HaShem, ça commence. Je tiens à vous rappeler à ce propos, j'étais invité récemment, enfin non, c'était il y a 3 ans, à un débat avec des étudiants palestiniens francophones organisés par des universités de Paris et l'Institut catholique de Paris à Jérusalem. Sur le thème « Penser l'autre ». Alors ils m'ont demandé « Est-ce que vous voulez venir nous parler ?» Bon, j'ai beaucoup hésité, finalement je dis « Je viens ». Alors quand je dis « Je viens », il me dit « On ne pourra pas garantir votre intervention, nous sommes désolés, nous sommes obligés de vous annuler ». Alors j'aurais dit « En ce cas-là, vous allez penser l'autre entre vous ». Mais enfin, disons que nous avons aujourd'hui une mission, et on peut dire que Manitou voyait juste quand il voyait dans l'État d'Israël le point de départ de Kimitzion Tetzetora Udvar Hashem Yerushalayim dans le sens fort du terme.
Merci Uri, à la fois pour la densité, l'exactitude aussi au niveau du temps, et le fait que tu as souligné ce paradoxe incroyable qui veut que de part et d'autre dans le monde de la Torah, on nous dit qu'il y a beaucoup de rabbanim, il n'y a que des gdolé Israël, et que quand par ailleurs, quel est ce paradoxe, par ailleurs quand il y a un événement mondial universel comme la crise des subprimes aux États-Unis, aucun de ces gdolim, aucun de ces rabbins ne vient expliquer devant les micros internationaux que le point de vue juif et hébraïque sur les causes, j'allais dire, éthiques de cette crise, ou bien encore, personne parmi ces prétendus gdolim ne vient expliquer les causes et les évolutions possibles de la guerre de civilisation entre l'islam et l'Occident, c'est-à-dire que le judaïsme, malgré ses pseudo-gdolim, est absent des forums internationaux. Ça va sans doute changer, mais c'est pour l'instant le paradoxe que tu as souligné en indiquant des directions. Alors, maintenant, pour continuer sur notre lancée, Marcel Goldman, qui est donc l'auteur de ces deux volumes formidables, La parole et l'écrit. Je crois qu'on peut les commander à la table de librairie qui est là-bas, en tout cas, puisqu'ils sont simplement exposés pour être consultés. Marcel Goldman est musicologue et compositeur. Il est l'ancien président du centre Rachi Kuej au moment de sa création à Paris, le centre dans lequel Manitou donnait de nombreuses conférences et dans lequel avaient lieu souvent les colloques des intellectuels juifs de langue française. Et Marcel Goldman, vous allez justement nous parler du pour soi et du pour l'autre, si je puis dire, dans l'œuvre de Manitou. Merci.
Merci. Je voudrais commencer en racontant que j'ai récemment entendu un exposé sur ce qu'on appelle les datlachim. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. C'est l'acronyme de datim le chéavar. Autrement dit, sont anciens religieux. Il s'agit généralement de jeunes datim leumim qui sont affranchis à des degrés divers de toute pratique.
On peut s'interroger sur les raisons de cet abandon. Il me semble pour ma part que la raison principale en est certaines lacunes de l'enseignement qui leur a été prodigué. Pour l'essentiel, sans entrer dans le détail de l'analyse, disons qu'il leur a manqué, à l'âge des interrogations, un maître tel que Léon Ashkenazi, maître que nos générations ont eu la chance et le privilège d'avoir. Léon Ashkenazi,
c'est ainsi que je préfère l'appeler, et non pas Manitou. L'appeler Manitou, c'est bien pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont approché, qui ont vécu dans les mêmes milieux que lui, qui ont été d'anciens EI. Mais il faut bien savoir que ce terme Manitou ne dit rien aux Israéliens. Quand vous leur parlez de Manitou, ils se demandent de quoi parle-t-on. Et si c'est vrai des Israéliens d'aujourd'hui, ce sera encore plus vrai des générations à venir, non seulement des Israéliens, mais également des Juifs. Alors c'est pourquoi je préfère l'appeler Léon Ashkenazi, et c'est sous ce nom que ses écrits ont été publiés, le sont et le seront encore. En attendant qu'un jour on l'appelle peut-être, comme l'avait proposé une fois en sa présence l'oncle du Rav Uri Cherki, le professeur Adi Steg, ce qui avait fait sourire Manitou d'ailleurs, le Rila, c'est Rabbi Yehuda Léon Ashkenazi. Certes, il n'y a pas de Léon Ashkenazi à chaque génération, de maître capable de répondre aux interrogations du temps, et tout particulièrement à celle de la jeunesse, d'une jeunesse confrontée à un monde nouveau, auquel elle souhaite s'ouvrir, tout en restant fidèle à la tradition de ses pères. D'où la question. Comment transmettre et actualiser son enseignement sans le déformer, ni le fossiliser, non plus que le figer. La Torah qu'il enseignait n'était pas une Torah du pour soi, non plus qu'une Torah de la séparation. Révélée par le maître des mondes, Adon Olamim, elle s'adresse à tous les mondes. Torah Trahim. Vous avez remarqué que le mot que la vie en hébreu s'exprime au pluriel et non pas au singulier. Elle touche donc Torah Trahim, elle touche donc à toutes les dimensions de la vie et pas seulement au rituel et à ce qu'il est convenu d'appeler la vie religieuse. Au sein du peuple, une Torah du pour soi tendrait à se limiter à un ou plusieurs groupes, comme c'est le cas des Haredim en Israël. Vers l'extérieur, une Torah du pour soi ferait du peuple d'Israël un peuple ignorant des autres peuples. Et c'est contre ces deux tendances que ne cessait de s'élever Léon Ashkenazi. Le point de départ, c'est bien entendu le caractère universel de la Torah. Je vais donc aborder d'autres aspects de l'universalité de la Torah. Pour préciser ce qu'il entendait par universel, Léon Ashkenazi faisait une distinction qu'il empruntait à l'ancien grand rabbin de Paris, le rabbin Meir Jaïs, entre les traditions de type universel, qui par essence veulent s'imposer à tous les hommes, quelles que soient leurs différences, et dont le risque majeur est bien entendu l'impérialisme. Donc distinguer les traditions de type universel des traditions de type universaliste, disait le rabbin Meir Jaïs. Et le type même de la tradition universaliste, c'est la tradition juive, qui, dans sa conception du salut pour les hommes, propose à ce que Manitou appelait l'universel humain une place sans pour autant prétendre s'imposer comme tel à tous. L'universalisme de la Torah, donc, s'exprime d'abord par la parole, et comme il est dit dans le premier livre de la Torah, au chapitre 11, « Et il arriva que toute la terre avait une... » au moment de l'épisode de la tour de Babel, c'est le premier verset, « Et il arriva que toute la terre avait une seule langue et des paroles semblables. » Telle est la traduction classique, un peu mystérieuse de par sa redondance apparente, effectivement, d'un côté une seule langue, d'autre part des paroles semblables. Une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yohanan, rapportée par le Talmud de Jérusalem, vient l'éclairer. L'un dit « Il parlait les 70 langues », l'autre dit « Il parlait la langue de l'unique du monde, le Lachon HaKodesh, non pas la langue sainte, mais la langue de la sainteté, la langue dont l'objet est d'exprimer la sainteté. » Cela signifie donc, d'après cette discussion, que le verset veut dire en fait, originellement, « Et il était arrivé que la terre était langue unique, il y avait une langue universelle et des paroles particulières. Chaque famille avait son langage propre, mais toutes ensemble pouvaient disposer d'une langue unique. » La Bible donne là, dès le départ, une définition de l'universel. Unité, une langue unique, et dans cette unité, qui n'est pas uniformité, des langues particulières, spécificité de chaque personnalité. Au-delà de la parole, l'universalisme de la Torah s'exprime également par la musique. Léon Ashkenazi rappelait que les voyelles, les consonnes, donc le phrasé du parler, est à un certain niveau de l'émission de vérité. Mais la musique se situe plus haut. Cela s'appelle en hébreu les ta'amim, et les kabbalistes l'appellent ta'am elyon, la volupté suprême. Le langage dont Dieu se sert est d'abord musical, et ensuite il s'enveloppe de lettres, de consonnes et de voyelles. L'essentiel du message prophétique est d'abord dans la cantillation, et ce qui est dit avec les voyelles et les consonnes est second par rapport au ta'am, la cantillation. Ce qui passe comme message dans la cantillation est essentiel. Les mots ne sont certes pas secondaires, mais seconds. L'universalisme s'exprime également par l'événement, par l'intervention divine dans toutes les dimensions de la nature. Léon Ashkenazi rappelait volontiers à ce propos le Midrash qui dit que lors du passage de la mer Rouge, les eaux de toutes les mers furent elles aussi séparées. Cela signifie que lorsque Dieu intervient dans l'histoire du monde, il bouleverse l'ordre de la nature, et c'est universellement que l'ordre naturel est bouleversé. Corollairement, lorsque cesse le cycle de ses interventions, c'est universellement que le monde extérieur prend l'aspect d'une nature, avec ses lois propres. Exprimé à l'indice de l'universalité, de par son universalisme même, la révélation s'adresse donc à tous les hommes. Mais dans le développement du temps, dans le déroulement de l'histoire, elle s'est adressée d'abord à un homme, Abraham, puis à une famille, puis à un peuple, pour finalement être entendue par toutes les nations, par l'ensemble de l'humanité. Le premier homme à l'avoir entendu, c'est Abraham, qui conclut avec Dieu une alliance, porteuse d'avenir, qui engageait toute sa descendance. Un midrash que Léon Ashkenazi aimait également à citer, et dont à chaque citation il soulignait tel ou tel aspect, et enrichissait de nouveaux commentaires, reprend l'injonction du « Shema Israël, écoute Israël » sous la forme interrogative. Quand le verset dit « écoute Israël », en fait la toute première et double question qui se pose est de savoir qui parle et à qui. Bien entendu, pour le fidèle qui prie, c'est à ses yeux, de toute évidence, lui, priant, qui est ainsi interpellé. Mais dans la perspective historiosophique, qui est celle du Midrash, telle que Léon Ashkenazi l'a apprise de Jacob Gordin, son premier maître Ashkenaz, comme il le dit dans la préface qu'il a consacrée aux écrits de ce dernier, ce sont d'abord les 12 fils de Jacob qui s'adressent à leur père, le premier homme qui ait reçu le nom d'Israël. Avant de mourir, Jacob réunit ses fils pour prophétiser leur avenir, mais la prophétie vient à lui manquer. Et devant son inquiétude, pour le rassurer, ils attestent devant lui l'unité de leur foi, « Ton Dieu est notre Dieu, et quelles que soient les apparences, il est le même pour chacun d'entre nous. Déjà, en effet, avec les 12 fils, il y a 12 manières d'être Israël, Rouben, Siméon, Lévi. Et il est nécessaire, comme le disait Léon Ashkenazi, en un certain temps de notre histoire, et bien entendu également dans le nôtre, de se rappeler qu'en dépit des différences, tous les Juifs sont Juifs, même les Juifs pieux, précisait-il, même les Juifs enrhumés, ajoutait-il avec humour. Pour la deuxième lecture du Midrash, c'est Moïse s'adressant à Israël. C'est d'ailleurs la situation historique du verset dans le Deutéronome. Il pouvait certes paraître évident que le Dieu de Moïse et le Dieu du peuple soient le même, mais en fait, dès l'origine, se dévoile une tension intérieure au peuple d'Israël, mettant en évidence deux visages du même Israël. Par la forme de leur attachement à Moïse, ajoutait-il, les Juifs peuvent se répartir en quatre catégories. D'abord, ceux qui suivent le Moïse de la sortie d'Égypte et ignorent celui du Sinaï. Ce sont les Juifs de la mémoire. Ensuite, ceux qui suivent le Moïse du Sinaï et ignorent celui de la sortie d'Égypte. Ils feignent d'ignorer que la Torah concerne les Hébreux sortis d'Égypte, ainsi que l'indique clairement le premier des commandements. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Ensuite, ceux qui refusent l'un et l'autre, autrement dit les Juifs assimilés. Et c'est ce qu'on pouvait penser de Moïse lui-même, élevé au palais du Pharaon, fils adoptif et héritier présomptif de la couronne d'Égypte, avant qu'il ne rejoigne les Hébreux. Enfin, quatrième catégorie, ceux qui ont entendu et compris la proclamation d'unité dans toutes ses implications et qui sont à la fois descendants d'Abraham, Isaac, Jacob et disciples de Moïse. Ce sont ces quatre catégories de juifs qui, une fois réunis, constituent le peuple juif. On se souviendra à ce propos, rappelait-il, que le loulav n'est valable que si les quatre espèces qui le constituent sont réunies. La troisième lecture du même Midrash est celle que fait Rashi du verset « Hachem, qui est notre Dieu maintenant, déjà, et pas encore celui des nations, est destiné à être un, selon le verset du prophète Sophonie, car alors, je cite le commentaire de Rashi, « Car alors je répandrai sur les peuples une langue épurée pour que tous invoquent le nom de Hachem. » Et il est dit dans Zacharie, cite également Rashi dans son commentaire, « En ce jour, Hachem sera un et son nom sera un. » C'est la dernière phrase du « Aleinu le Shabéar ». Ce qui veut dire qu'il viendra un temps où les nations s'adresseront à Israël pour proclamer à leur tour « Écoute Israël, Hachem notre Dieu, à vous et à nous, Hachem est un ». La question est de savoir pourquoi Rashi n'a pas cité les deux premières lectures et s'est borné à la troisième. C'est qu'il jugeait, dans une vision optimiste, que déjà de son temps, les deux premières lectures étaient de l'ordre de l'évidence et irréversiblement intégrées. Tous les Juifs sont Juifs, quelle que soit leur tribu, leur origine, leur parti, et qu'ils le soient plutôt par l'appartenance au peuple d'Israël, ou plutôt par la fidélité à la Torah d'Israël, seul le troisième sens qu'il lui paraissait à Rashi nécessaire de rappeler, était et est encore en promesse. Un autre Midrash, que Léon Ashkenazi se plaisait également à citer, va dans le même sens et enseigne que la révélation du Sinaï s'est faite dans les 70 langues, que toutes les nations l'ont donc entendue, mais qu'Israël l'a reçue et l'entendit dans sa langue propre, le Lashon HaKodesh, l'hébreu, la langue de la sainteté, définie par Léon Ashkenazi comme la langue de l'unité des valeurs, capable tout à la fois d'exprimer l'unité du vrai, du beau, du bon, sans qu'aucune de ces valeurs ne vienne exclure les autres. Par une réaction de leur psychologie profonde et de par leur attachement à une valeur particulière, érigée en valeur suprême, les nations ne pouvaient que refuser cette unité des valeurs que la Torah leur proposait. Jacob Gordin, comme le rappelait souvent Léon Ashkenazi, soulignait que les peuples étaient en fait prêts à accepter la totalité des commandements de la Torah, à l'exception toutefois d'un seul, majeur certes, expression de la valeur, ou plutôt du déni de valeur, qui était leur raison d'être même. déni pour certains de la valeur de la vie, tu ne tueras pas, déni pour d'autres de la valeur des biens, tu ne voleras pas. Finalement, chaque peuple n'a retenu que ce qui correspondait à son génie propre. Mais l'universalisme de la Torah ne se limite pas à la relation avec les nations. Il doit également s'incarner au sein même du peuple juif, dans la relation des communautés entre elles, de même qu'également dans la relation des tribus entre elles. Entre les communautés d'abord. Au début du chapitre 14 du Deutéronome, il est dit « Vous êtes des fils pour Hachem, ne vous faites pas de mutilation pour un mort, l'autre il godedou. » Rashi commente « Ne faites pas comme les Amoréens, car vous êtes les fils de Dieu, et vous devez être beaux, c'est-à-dire non mutilés. » Au traité Yebamot, dans le Talmud de Babylone, on commande différemment. « Ne faites pas d'assemblées partisanes et séparées, agoudot, agoudot. Ce sont elles qui mutilent le corps du peuple, le corps social, comme les mutilations physiques qu'indique la lecture littérale du verset, mutilent le corps de l'homme. » Léon Ashkenazi reliait cet enseignement au début du verset « Vous êtes des fils pour Hachem ». Et à la suite de son second maître Ashkenaz, le Rav Tzvi Yehuda Kook, il mettait l'accent sur le fait que l'appellation « fils de Dieu » concerne tout Israël, et pas plus un groupe qu'un autre, pas plus une communauté qu'une autre. Aucune ne peut s'ériger en communauté séparée, en communauté des parfaits. Vous êtes tous des fils de Dieu, par sainteté naturelle, sans condition. Les deux commentaires, celui de Rashi et celui du traité Yebamot, se rejoignent. Multiplier les communautés séparées ne peut conduire qu'à la mutilation, la division, la désagrégation et à la mort. Un enseignement de Rabbi Meir, dans le traité Kiddushim, indique par ailleurs que vous vous comportiez en fils pour Hachem ou non, dans un cas comme dans l'autre, vous êtes appelé fils, d'après ce que dit le verset du Deutéronome, fils sans loyauté, même des loyaux, les fils sont des fils. L'universalisme de la Torah doit aussi s'incarner dans la relation entre les tribus. Aucune ne doit prétendre à une prééminence quelconque sur les autres. L'idée d'une tribu qui serait plus Israël qu'une autre est tout simplement absurde. S'agissant de la tribu de Lévi, d'abord, on a lu Shabbat dernier dans la Parasha Balotera, les deux versets suivants. « Or, j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et je les ai donnés à Aaron et à ses fils, du sein des enfants d'Israël, pour assurer le service des enfants d'Israël, dans la tente d'assignation et pour servir d'échange avec les enfants d'Israël, afin qu'il n'y ait plus de catastrophe pour les enfants d'Israël. » Vous avez remarqué que l'expression « enfant d'Israël » est répétée 5 fois dans ces deux versets. À l'origine, dans chaque famille, le prêtre était le premier-né de la famille. Après la faute du veau d'or, la tribu de Lévi est devenue la tribu des prêtres d'Israël à la place des premiers-nés. On est tellement habitué à voir les Lévites voués au service du temple qu'on oublie qu'ils ne le sont que par délégation des 12 tribus. Cette délégation ne disqualifie pas ces dernières. Il faut donc relire le verset. Le texte définit en fait ce qu'est la vraie place des enfants d'Israël. Les Lévites ne font que les y remplacer provisoirement. Le commentaire de Rashi confirme en effet. L'expression « les enfants d'Israël », souligne-t-il, est employée 5 fois dans le verset pour faire connaître l'amour que Dieu leur porte. Cette quintuple mention renvoie au nombre de livres de la Torah. Le Midrash Bereshit Rabba, auquel se réfère Rashi, évoque en fait le mot « lumière », qui est répété lui aussi 5 fois dans les premiers versets du récit de la création. Rashi fait ainsi allusion au rôle de lumière que doivent jouer les enfants d'Israël dans le déroulement des étapes de l'histoire, telles qu'elles sont préfigurées dans chacun des 5 livres de la Torah. La répétition à 5 reprises de l'expression « les enfants d'Israël » vient rappeler que c'est d'eux que provient la sainteté de la tribu de Lévi. L'alliance de la Torah a été conclue avec un peuple, pas seulement avec les Lévites, et ceux qui aujourd'hui prétendent jouer leur rôle. De même que le choix de la tribu de Lévi n'a pas disqualifié les autres tribus, de même le choix des enfants d'Israël n'a pas disqualifié les autres nations. Israël à la délégation de sainteté des autres nations. Pour terminer, il convient bien entendu de rappeler que l'enseignement de Léon Ashkenazi sur l'universalité de la révélation, enseignement plus que jamais fondamental, en particulier pour l'Israël d'aujourd'hui, n'est cependant que l'un des nombreux thèmes qu'il développait. Il soulignait souvent que la révélation du Dieu de l'unité des valeurs ne pouvait par essence que s'adresser à tous les hommes et à tous les temps. D'aucuns ont voulu distinguer deux Léon Ashkenazi, l'un de France, l'autre d'Israël. Ceux d'entre nous qui l'ont connu dans ces deux périodes, qui ont suivi ses cours, écouté ses conférences, participé à ses séminaires et aux forums communautaires dans lesquels il intervenait, à Orsay, à Paris, à Jérusalem et dans bien d'autres lieux, savent qu'il n'en est rien. Son enseignement, pour l'essentiel, n'a guère varié. Certes, selon les circonstances, le lieu, les publics, car il s'adressait volontiers à tous les publics, il mettait l'accent sur tel ou tel aspect, mais le fond restait le même. Son grand talent, après l'avoir revu tout à l'heure, je dirais même son grand génie, fut d'avoir su trouver un langage adapté aux hommes de son temps et d'avoir su reformuler les enseignements de la Torah au plus haut niveau. Aujourd'hui se pose le problème de la transmission de cet enseignement aux générations nouvelles qui ne l'ont pas connu. Il y a bien entendu les publications en français, en hébreu et dans d'autres langues, mais cela ne suffit guère. Comme il le disait souvent, citant l'Ecclésiaste, « Faire des livres, cela n'a pas de fin. » Cela même retarde la fin, dit un commentaire hassidique qu'il citait également. Les bibliothèques sont pleines de livres que personne ne lit. Rien ne remplace la parole vivante. C'est donc cette parole, sans la ritualiser, qu'il faut faire vivre et revivre sans cesse. Et pour cela, trouver le langage adapté aux générations nouvelles qui ont reçu d'autres formations, d'autres enseignements, traditionnels ou non, et qui sont confrontés à d'autres situations et à un monde en constante mutation. Mais après les différents exposés que nous avons entendus tout à l'heure, et notamment celui du rabbin Yinam Madar, je suis confiant sur la transmission de cet enseignement. Merci.
Merci Marcel Goldman pour cette étude serrée qui nous a remis en tête à la fois l'approche de Manitou sur différents midrashs qui donne cohérence à sa pensée, à son œuvre. À présent, je passe la parole au Rav Yosef Hatoun qui va clôturer ce forum sur le thème de la fraternité dans l'enseignement de Manitou.
Regardez, nous avons pris un petit peu de retard, Dieu merci, il faut dire, ça veut dire que nous avions beaucoup de choses à entendre et en votre nom, je remercie tous les intervenants. Je voudrais donc raccourcir mon intervention de maintenant, mais quand même vous dire, comment dire, les tenants et les aboutissants en quelques minutes. Et ensuite, nous aurons donc une pause importante avant l'intervention du professeur Benogros. Je voudrais juste rebondir une seconde sur le Rav Cherki tout à l'heure qui nous a raconté avec pas mal d'humour sa rencontre avec les bonnes sœurs. Moi j'ai presque eu cette chance, mais pas tout à fait, parce que figure-toi que mon histoire commence comme la tienne. Manitou un jour m'a dit tu sais, j'ai été invité à Ratisbonne mais j'ai pas le temps d'y aller là, aujourd'hui, et donc tu vas y aller. Alors, Ratisbonne, vous connaissez à Jérusalem, c'est un endroit respectable, chrétien, et j'ai dit, mais il n'en est pas question, j'ai rien à dire, j'ai absolument rien à dire. Il m'a dit, tu sais, bon, je vous dis tout de suite pour la petite histoire, finalement ça ne s'est pas fait au dernier moment, je ne me rappelle absolument plus pourquoi, mais enfin, il m'avait dit, mais c'est pas compliqué, je t'assure que c'est pas compliqué, et c'est pour ça que je raconte ça, parce que il avait dit, voilà, en fait, il suffit de leur dire trois choses. Ils viennent pour ça, ils viennent jusqu'ici pour entendre trois choses. La première chose, c'est que c'est nous, véritablement, le peuple d'Israël. La deuxième, c'est que nous sommes revenus sur notre terre après 2000 ans d'exil, et que donc, c'est peut-être pas exactement comme on vous a raconté. Et la troisième chose, c'est que nous avons bien l'intention d'y rester et de réaliser ici, en Eretz Israël, l'universel humain. Voilà, c'est tout. Et j'ai compris que c'était le fruit d'une longue expérience de Manitou, où il avait vraiment l'habitude de leur dire ces trois choses-là, et que c'était vraiment cela qu'ils étaient venus entendre. Alors, je ne fais qu'abonder dans le sens de ce qu'a dit le Rav Cherki tout à l'heure. Il y a quelque chose qui bouge, il ne faut pas grossir plus qu'il en est les changements et les espérances, mais... puisque c'est comme ça que ça doit se passer également à propos de l'islam, puisqu'il s'appelle Yishma El, il entendra Dieu, alors certainement qu'on peut être confiant tout en étant prudent. Bon. Alors, juste les tenants et les aboutissants. Je pensais prendre beaucoup plus de temps, mais vraiment il est tard. Alors, je voulais développer finalement, me faire un petit peu... expliquer ce qu'ont dit le Rav Cherki et Marcel, qui ont expliqué Manitou. Alors je me fais celui qui explique ce qui a été dit, mais on n'a pas de temps beaucoup. Alors juste, je voudrais dire, ça commence avec Caïn et Hevel. Chez Manitou, ce thème de la rivalité entre Caïn et Hevel est un thème extrêmement, comment on dit, porteur, c'est pas joli, enfin, un thème extrêmement fondamental. Parce que, je vais vous dire, Manitou avait l'habitude de dire que c'est la première génération, comment dire, humaine de l'humanité. Vous comprenez, dans le langage traditionnel, ça s'appelle « fils de femme ». C'est-à-dire, Adam et Chava, Adam et Ève, évidemment, étaient « Yetzir Kapehem Shel HaKadosh Baruch Hu », ils étaient l'œuvre des mains divines. Et les premiers à affronter cette situation ambivalente d'être à l'image de Dieu tout en étant humain et foncièrement humain, eh bien ce sont Caïn et Hevel. Or, ce que Manitou avait l'habitude de dire, et je raccourcis beaucoup, 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 c'est qu'il y a une grande différence entre ce qu'il appelait l'être fils et l'être frère. L'être fils, c'est Caïn. Caïn est le premier. Le un. Vous savez qu'il y a une grande différence entre le un et le premier. Echad nous enseignait Manitou pendant des années et des années. Ça ne veut pas dire un, ça veut dire celui, un dans le sens, il n'y a pas de deuxième. Un, ça veut dire dans la langue des prophètes, disait-il, complet. Et puisqu'il est complet, alors il n'y a pas de Shnaim, Shoné, Sheni, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre que lui, puisqu'il est la complétude, la perfection. Alors, Hachem Echad, et voilà que va naître du premier homme, de Adam et Ève, va naître un fils un. Car tout le temps où il n'y a pas de deuxième, eh bien, le un se perçoit comme un, c'est-à-dire comme complet, parfait, non manquant. Et par conséquent, c'est le deuxième qui va naître d'ailleurs comme jumeau de celui-là. Mais après, Hevel, il s'appelle Achiv, son frère. Eh bien, vous savez, le petit frère qui se définit comme étant « je suis le frère de celui-là », vous connaissez, le frère cadet. Alors, ce frère-là, qui lui se perçoit immédiatement, d'emblée, comme l'être frère, va évidemment s'opposer de façon radicale avec l'être fils, car l'être fils qui est Caïn, qui se perçoit, je le répète, d'abord et avant tout comme « puisque je suis là, il y a besoin de personne d'autre », je vais un peu vite. Hein. Alors, puisque c'est comme cela, il se perçoit comme, je ne sais pas comment on dit, le légataire universel du monde. Et puisqu'il est l'héritier, de la première génération de l'humanité, alors... lui n'a pas à acquérir son être. Et là-dessus, Manitou va insister du début à la fin de son enseignement. Le fondement de la morale, le fondement de l'être moral, c'est la perception de ce fait que je suis un être créé. Rappelez-vous ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure concernant la gratitude, concernant le toda. Ça veut dire celui qui se perçoit comme étant recevant de l'être, c'est-à-dire finalement comme étant... comme ayant une dette par rapport à celui qui lui a donné ce cadeau qui est le cadeau le plus important qui existe. Alors, cela, c'est le cas de Hevel. Hevel, qui veut dire un souffle, qui veut dire celui qui n'a d'existence que par l'autre. Dans le texte, il y a marqué Batosef la ledet et arrive et Hevel. Elle ajouta d'engendrer son frère Hevel. Donc, il se perçoit tout de suite comme un Yosef, comme une Tosefet, comme en plus de l'autre. Il se perçoit tout de suite comme son frère dans la relation du frère à frère. Et puis, il se perçoit finalement comme Hevel, c'est-à-dire très exactement un commencement de quelque chose, un souffle de quelque chose, mais qui doit, pour aboutir, se relier avec l'existant réellement, qui s'appelle Kain, qui vient de la racine Kinyan, qui veut dire acquisition, celui qui possède, celui qui est l'héritier universel. Alors, pourquoi tout cela? Parce que, bien sûr, on a annoncé qu'on ne va pas prendre de temps, j'en arrive au fait que pour Manitou, d'une façon extrêmement pertinente, extrêmement longue, extrêmement documentée, c'est-à-dire de verset en verset, il nous montrait comment cette recherche en fraternité, comment, qui va échouer à la première, lamentablement, d'une façon tragique à la première génération de l'humanité, et ça donne d'ailleurs un petit peu d'humilité par rapport à ce que nous sommes, comment cette recherche en fraternité va petit à petit se dégager l'universel humain pour se focaliser, Asher Bacha Banu Mikol Amim, pour se focaliser, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la personnalité d'Avraham. Avraham qui va, pour la première fois, et je citerai seulement cela et je termine presque, Avraham qui, avec Avraham, dit Manitou, signale Manitou, le mot frère ou fraternité va disparaître pratiquement, pas complètement, mais en grande partie, du récit biblique après le meurtre de Abel par son frère Caïn, pour réapparaître, mais alors d'une façon, avec un flot d'occurrences, avec la personnalité d'Abraham. Et Abraham n'arrête pas d'utiliser, ou à propos d'Abraham, le récit biblique n'arrête pas d'utiliser le mot de fraternité. Alors, Manitou diagnostique dans son enseignement que c'est cela qui est au fondement de l'universel moral, de l'universalité de l'homme universel de moralité, qui se focalise dans la maison d'Abraham, qui sont descendants de Shem et de Hever, etc. L'humanité ayant une espèce de nostalgie de cet homme, de ce projet du Ben Adam, de ce projet de l'homme réussi, qui était avant Dor HaPelaga, avant la génération de la dispersion. Manitou dit d'ailleurs, c'est très intéressant, la diaspora, la dispersion dont nous parlons à propos du peuple juif, il dit ça n'a pas commencé avec nous, chez nous c'est seulement en second. La véritable dispersion dans un sens irrémédiable, c'est celle que l'humanité a vécue au moment de Dor HaPelaga, au moment de, après la tour de Babel, donc lorsque Mida Keneged Mida, Dieu les a dispersés aux quatre coins de la planète. Et Manitou termine en disant que la diaspora d'Israël, elle, vient seulement se greffer en tant que l'homme unitaire, l'homme unique, l'homme descendant de ce projet de Hever qui était avant Peleg. Hever, c'est l'ancêtre des Hébreux, Ivri, donc il faut redevenir Hébreu, disait Manitou, c'est-à-dire retrouver cette unité fondamentale, cette capacité d'être le frère du frère, ce que l'humanité a perdu. Car l'humanité, comme l'a dit Marcel tout à l'heure, a mis à la place de cette volonté d'universalisme, a mis à la place ce qu'on appelle les impérialismes, c'est-à-dire je veux bien tolérer l'autre à condition qu'il soit comme moi, et si il ne l'est pas, eh bien je me chargerai de faire qu'il le soit. Alors j'ai beaucoup schématisé, je pensais aussi vous amener un texte du Rav Kook qui montre cela très bien, mais on attendra que Benno Gross veuille bien nous traduire Oroth Israël à la fin du petit livre Oroth, où il y a là-bas un texte étonnant où le Rav Kook justement explique abondamment et de façon détaillée que le particularisme d'Israël est l'universalisme attendu par l'humanité. Manitou disait à ce propos-là, et c'est ma dernière phrase, je vous assure, pour aujourd'hui, Manitou disait à ce moment-là qu'il a entendu de son maître Jacob Gourdin qu'il disait une phrase basée sur un enseignement de Eliaou Ben Amozeg que le Rav Cherki rappelait tout à l'heure, et dans son livre « Israël et l'humanité ». Eliaou Ben Amozeg, on va terminer par là, Eliaou Ben Amozeg disait une très jolie phrase, disait Manitou. Il disait « Chaque nation a une tradition, un génie propre, et c'est une véritable perle, chaque nation. Et quelle est la perle d'Israël ? Ah non, il n'y a pas de perle d'Israël. Israël, c'est le collier. » Voilà.